fiebre hay. No, 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 ay, ay.
Bonsoir à vous à la recherche du groove perdu, numéro 175 en direct, rien que pour vous sur les ondes de votre radio locale RDIWA, la radio du DIWA, retrouvable sur la fréquence 107.5 dans la zone couverte par l'émetteur et sur le net partout ailleurs via le site de la radio www.rdwa.fr. Voilà pour le rappel ce soir. Pour la dernière de l'année, une émission hors série intitulée « Rire drôle et bonne chanson, explication de texte ». Lorsque j'écoute « Rire et chanson », souvent par dépit en bagnole à chaque fois que je me dis « Ce serait vachement bien une radio qui passerait à la fois des sketchs drôles et de la bonne musique ». Le concept de base est bien, il faut le reconnaître. Mais dans les faits, il faut se taper 10 grosses daubes pseudo-humoristiques pour tomber sur un bon sketch. Et côté musique, le constat est encore plus accablant, du pop-rock à fond les ballons avec une programmation pour amateurs de rock FM des années 80. Partant de ce constat, j'ai donc décidé de monter une émission avec de la bonne zik et des extraits de spectacles ou d'émissions cultes. Vous entendez ce soir Pierre Desproges, Coluche, Les Deschiens, Dupontel pour le côté humour et du funk, du reggae, de la musique brésilienne, du hip-hop, de la soul en guise d'interlude musical. On commence par un extrait du Tribunal des flagrants délires, émission culte de France Inter du début des années 80. C'était autre chose que ce qui passe aujourd'hui. La preuve avec cet extrait de l'émission où des proches cuisinent Daniel Cohn-Bendit pendant quelques minutes. On commence donc par là. À vous, messieurs des proches, Rego et compagnie, c'est parti. On se retrouve dans 8 minutes, un truc comme ça. Allez, ciao.
Que tombe la colère de la société.
Il y a intérêt, oui.
Par la voix du procureur général de la République des proches françaises.
Merci.
Française, français, belge, belge, monsieur le président de Perrette, pauvre conne. Permettez, Daniel, je vous appelle conne. Pauvre conne. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Je n'ai rien contre les rouquins. Encore que je préfère les rouquins bretons qui puent la moule aux rouquins juifs allemands qui puent la bière. D'ailleurs, comme disait à peu près Himmler, qu'on puisse être à la fois juif et allemand, ça me dépasse. C'est vrai, il faut savoir choisir son camp. Enfin, mesdames et messieurs, tout ça, c'est du passé. L'antisémitisme n'existe plus. Si, enfin, je veux dire que de nos jours, quand même, on peut dire qu'il y a moins d'antisémites en France que de juifs. D'ailleurs, personnellement, je m'en fous, je suis ni l'un ni l'autre. J'ai mes papiers de chrétien de gauche, si vous voulez. Là, j'ai mon certificat de baptême. Là, j'ai mon bulletin d'abonnement à Télérama. Alors... Mais revenons-en, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs les jurés, au cas douloureux de cet ancien combattant rondouillard qui soupire sur ses souvenirs de guerre en faisant pousser des laitues dans la banlieue de Francfort, à moins que j'ai mal compris le chef d'accusation, ça m'étonnerait. Qui êtes-vous, pauvre conne? Qui est Daniel Cohn-Bendit? J'ai posé la question à quelqu'un pas plus tard que la semaine dernière. Face à la mer, je regardais mourir l'été du haut de la superbe terrasse de la somptueuse villa balnéaire dont l'immense fortune de ma famille me permet de jouir à mes très nombreux moments perdus. Grotesques et désœuvrés, les congés payés clapotaient misérablement à mes pieds. Tristement boudinés dans leur triste cache-bonbon trop large du catalogue des trois cuisses. Je songeais tristement, monsieur le président, que parmi ces mornes quadragénaires prématurément usés par les tracasseries bureaucratiques, drogué de télévision, boursouflé de vinasse et sursaturé de ragoût navrant, certains piaffèrent naguère sur les barricades émouvantes d'un printemps de fureur juvénile. Me tournant alors vers la jeune fille d'un de mes amis, une pure adolescente de 15 ans, de celle dont on se dit « Ah, mon Dieu, que la femme est belle au sortir de l'enfance. Seigneur Jésus, t'as vu, c'est Lolo. » Me tournant donc vers cette frêle naïade qui rêvassait près de moi sur un transat, en parcourant la rubrique des ovaires anxieux dans Cosmopolitan, je lui dis à peu près ceci. « Dis-moi, ma petite Marie, sais-tu qui est Daniel Cohn-Bendit ?»« Daniel Cohn-Bendit, c'est pas la fille du groupe Téléphone ?» Eh oui, mon vieux président. Eh oui, mon pauvre baveux péninsulaire. Eh oui, mesdames et messieurs les jurés de carnaval. Il faut vous y faire. Pour cette génération, Pétain, Cohn-Bendit ou Yves Montand, c'est le passé. Au reste, et à regarder de plus près, quelle différence y a-t-il vraiment entre Pétain et Yves Montand? À la réflexion, il y en a une. Pétain, lui, au moins, il ferme sa gueule. Il donne pas son avis sur la Pologne quand on lui demande de chanter les feuilles mortes. Ah, les feuilles mortes, monsieur le président. Prévert. En ce temps-là, la vie était plus belle et l'Algérie plus française qu'aujourd'hui. Ah. Et maintenant, tout est changé, tout fout le camp. Et Daniel Cohn-Bendit, insidieusement, sans qu'il s'en rende bien compte encore, Daniel Cohn-Bendit commence à perdre ses illusions et ses cheveux rouges. Malgré la raideur et la dureté du cœur des reins qui frétillent sous la robe austère de la justice, je vous demanderai d'avoir quelque indulgence pour cet ancien poilu des tranchées de la rue Saint-Jacques, devenu presque impotent. Regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Qui pourrait en vouloir à ce misérable déchet humain qui croupit sans grâce au banc de l'infamie, tandis que les enfants des disciples de Dany le Rouge se peignent les cheveux en vert pour aller pétarader en bande sur les vélomoteurs imbéciles de leur printemps petit bourgeois. Cet homme, mesdames et messieurs, est à l'automne de sa vie, à la fin de son voyage. Il est bon pour l'euthanasie. Il s'étiole et se racornit comme la première feuille morte que foulent aux pieds les amants séparés qui se repoussent au bois de Vincennes et qui s'attirent du bois de Boulogne. De plus, c'est un aliéné mental, comme la plupart des marginaux qui ont préféré la vie communautaire au Lions Club et qui vivent leur mouvement alternatif sans le courant continu. Cet être, mesdames et messieurs les jurés, est à l'évidence à la fois psychotique et névrosé, comme aurait dû le démontrer tout à l'heure notre excellent ami le docteur Feuilly, et comme elle ne l'a pas fait, car en vérité, je vous le dis, monsieur le président, elles sont toutes folles de ce voyou apatride, dans le regard pétillant duquel elles croient lire une étrange beauté intérieure, alors qu'il s'y cache en réalité cet éclair glauque de luxure concupiscente, propre aux émigrés sataniques qui viennent jusque dans nos bras pour culbuter nos filles et nos compagnes. Oui, ma petite Follette, oui. Cet homme qui mange le sein des Françaises, il est à la fois psychotique et névrosé. À l'intention des imbéciles et des électeurs de gauche qui nous écoutent par millions, je rappelle la différence fondamentale qui existe entre un psychotique et un névrosé. Le psychotique pense que 2 et 2 font 5, et il en est absolument ravi. Alors que le névrosé, lui, sait que 2 et 2 font 4, et il en est désespéré. C'est pas de moi, une définition qui vaut ce qu'elle vaut, je ne sais plus si elle est de Sigmund Freud ou de Macapello, mais en tout cas c'est pas un con. Pyromane en 68, paranoïaque depuis l'enfance, Daniel Cohn-Bendit semble avoir définitivement sombré aujourd'hui dans la plurigamie polyphilanthropique plurigame, à ne pas confondre avec la bigamie schizophrénique dont souffre Maître Rego. Comme son nom l'indique, le bigame schizophrénique joue du piano à deux mains avec un entonnoir sur la tête. Le 25 mai 68, sur arrêté ministériel du regretté Christian Fouchet, je dis regretté parce qu'il est mort sans m'avoir rendu mon peigne, Daniel Cohn-Bendit était refoulé à Forbach alors qu'il tentait de rentrer en France pour faire encore l'andouille avec des boutonneux sur des bouts de bois et des pavés. Je propose, mesdames et messieurs les jurés, pour finir, que nous le condamnions aujourd'hui à la même peine. Allez-vous-en, Cohn-Bendit. Allez méditer sur vos crimes en Basse-Moselle et restez-y. Car après tout, mesdames et messieurs les jurés, je vous le demande en votre âme et conscience, ne vaut-il pas mieux être dévoré de remords dans la forêt de Forbach que dévoré de Morbach dans la forêt de Francfort ?
C'était Pierre Desproges. des réquisitoires. On enchaîne avec une série hip-hop, Bidolan, Which Side Are You On, et il y aura ensuite Mos Def. À tout.
Torch pass, fall in the tall grass. Fire alarm, wires disarmed. What do you call that? Call it predictable political cliches. So when the movie ends, the revolution's dead. Replay the sequence of events that led to these deep divisions. I realize the order wrong, people are in prison. The children wanna know if I believe in the reptilians. I tell them I don't know, but on the TV I see lizards. When action was in fashion, you were such an easy mimic. Bumper sticker, quote lifting, rip no statistic. Grass for the straw man, born again, cynic. Fair weather, fire. Your brand sparked my suspicion. Knew you were the type to take the fight like a gimmick and rock the t-shirt when your sweat wasn't in it. The clock is still ticking for the victim of the future. You wait until they look like you to ever choose. But
which side are you on? Which side are you on?
Damn.
Which side are you on? Which side are you on?
Ask the industry.
They on small-minded hatred. The same rappers say they troop in the front lines and casually use the word faggot as a punchline. That's not a man, that's not a tough guy. That is a sucker and a fraud to the culture. Hip-hop is folk music grown from the struggle, and half these fools could put the mic down and run as a Republican. Fuck them, then they learn from their own wrong. Homophobes don't go to my shows, we too strong. And if you in the front row harassing girls during a song, I'ma reach out and ask you exactly. Kids are giving me shit for this, it really doesn't bother me. They were not around when we were wrestling with poverty. So I follow run and ask no one to follow me. Use your own mind, use your heart and your anger. Check yourself because apathy is a cancer. And let your action be the answer.
Couldn't keep it down. Asked her to dance and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, Sam ass from Jamaica. She sipping Chris straight up, shaking while in a waist up. Scene 2. My fam throwing the jam for Reed is on the stand. Big things is in the plan. The brother Big Moon makes space for me to move ahead. Yo, this my man Most, baby. Let me introduce. I turn around. You was the same pretty bird who I had priorly observed. Trying to play me for the herb. Shocked to tell she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine. My name is Most. I'm Sharice. I heard so much good about you. It's nice to finally meet. He moved to the booth, preserved the crew, especially your honey love. Ended up sitting directly next to me. I'm tight polite, but now I'm looking at her skeptically. His baby girl got all the right weaponry. Designer fabrics, shoes, and accessories. Chinky eyes, sweet voice, hold me mentally. Me conversator made her laugh. Yeah, you know me, bro. Even though I know the steelo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me? Dance with me.
She blew my whole head with that. I was like, what?
I played it low though. I was like, yeah, all right, come on then, let's go.
This is mad.
This is so sick. I'm telling you, honey was so blazing. She was, yo, she was like Jane Kennedy, word bomb. To my mother, man. She was that L, man. She take it to the dance floor and she start whispering to me. Yo, let me apologize for the other night. I know it wasn't right, but baby, you know what it's like. Some brothers don't be coming right, I understand.
Voilà pour cette interlude de hip-hop. On enchaîne avec un autre extrait du Tribunal des flagrants délires, émission de France Inter des années 80, toujours avec des proches et son réquisitoire contre Le Pen. Toujours d'actualité, le grand des proches sera encore le cas avec un des derniers sketchs de l'émission. Là, on le retrouve donc dans son réquisitoire contre Jean-Marie Le Pen. C'est parti, à toutes.
Français, belge, belge, extrémiste, extrémiste, mon président français de souche, mon émigré préféré.
Ta gueule.
Mesdames et messieurs les jurés, Mademoiselle Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Madame Le Pen, public chéri, mon amour. Comme j'ai eu l'occasion de le démontrer ici même récemment,
elle est morte.
Avec un brio qui m'étonne moi-même, malgré la haute estime en laquelle je me tiens depuis que je sais qu'il coule en mes veines plus de 90% de sang, vous allez rire, plus de 90% de sang à rien et moins de 3 grammes de cholestérol. Ah, les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio.
Ah bon ?
Qui pisait ? Je te traduirai après. Qui pisait une émission de radio dite comique, ou au moins qui tente de l'être. Alors, le rire, parlons-en, et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H comme dans Halimi, les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? À la première question, je répondrai oui sans hésiter, et je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes corréligionnaires en subversion radiophonique, Louis Rego et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort ? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous, Tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, poil horrible. Donc, on peut rire de tout, y compris de valeurs moins sacrées, comme par exemple le grand amour que vit actuellement le petit roi inamovible de la défense passive, qui ici présent. Son grand amour s'appelle Marika, c'est la seule arienne au monde qui peut le supporter. Ce qu'on comprendra aisément quand on saura qu'il s'agit de la poupée gonflable en peau de morue suédoise que sa tata Rodriguez lui a envoyé de Lisbonne en paquet fado.
Coucher, procure, coucher.
Deuxième point, peut-on, écoute-moi Louis, peut-on rire avec tout le monde? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie, dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice, sous laquelle ne vous raconte pas. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Comme dirait mon charmant ami le brigadier Georges Rabol, qui est ici, qui joue du piano ici tous les jours, et qui, je le précise, à l'intention des auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur, est presque aussi nègre que pianiste. Dans une journée particulière, le film d'Ettore Scola, Mastroianni, poursuivi jusque dans son sixième par les gros bras mussoliniens, s'écrit judicieusement à l'adresse du spadassin qui l'accuse d'antifasciste. Vous vous méprenez, messieurs, ce n'est pas les locataires du sixième qui est antifasciste. C'est les fascistes qui anti-locataires du sixième. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère, disait avec mansuétude le président Senghor, qui est moins pianiste, mais plus nègre que Georges Rabel. Pour illustrer ce propos...
Mais Rabel est français, lui.
Oui, c'est toujours ça. Pour illustrer ce propos, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une histoire vraie, monsieur Le Pen. Cela nous changera des habituelles élucubrations névropathiques inhérentes à ces regrettables réquisitoires. Et c'est une histoire de chauffeur de taxi, justement. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement. C'est une histoire vraie, hein, j'insiste là-dessus, sinon c'est pas intéressant. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement accompagné de la pulpeuse comédienne Valérie Mérès, avec qui j'aime beaucoup travailler, non pas pour de basses raisons sexuelles, mais parce qu'elle a des nichons magnifiques. Nous grimpons dans un taximètre sans bien nous soucier du chauffeur, un monotone quadragénaire de type romorantin, couperosé de frais, et poursuivons une conversation du plus haut intérêt culturel, tandis que le taxi nous conduit vers le Châtelet. Mais, alors que rien ne le laissait prévoir, et sans que cela ait le moindre rapport avec nos propos, qu'il n'écoutait d'ailleurs pas, cet homme s'écrie soudain: « Ah ben moi, les Arabes, je peux pas les saquer !» Ignorant ce trait d'esprit sans appel, ma camarade et moi continuons notre débat. Pas longtemps. 30 secondes plus tard, ça repart. « Ah ben moi, les Arabes, vous comprenez, c'est pas des gens comme nous. Moi qui vous parle, j'en ai eu comme voisin de palier pendant 3 ans, ah ben merci bien. Ah les salauds, hein. Alors leur musique à la con, merde. Hein. Alors vous me croirez si vous voulez, hein. C'est le père qui a dépucelé la fille aînée. Ah ça, c'est comme ça, hein. C'est les Arabes. » Alors ce coup-ci, je craque un peu, je me retourne et je dis « Monsieur, je vous en prie, mon père est arabe. » Ah, bon. Ah, remarquez, votre père, je dis pas. Hein. Ah, bien sûr. Il y en a des instruits, hein. Et puis vous, on voit bien que vous êtes propre et tout. D'ailleurs, je vous ai vu à Belmar. À l'arrière, brinque-ballée entre l'ire et la joie, nous voulons encore ignorer. Hélas, la pause est courte. Oui, votre père, je ne dis pas. Hein. Mais alors, les miens d'arabe, pardon. Hein. Alors, ils avaient des poulets vivants dans l'appartement, monsieur. Hein. Et vous savez ce qu'ils leur faisaient? Ils leur arrachaient les plumes rien que pour rigoler. Et la cadette, je suis sûr que c'est lui aussi qui a dépuselé. Hein. Ça, je suis sûr. Ça s'entendait, alors. Mais votre père, je dis pas. Hein. Et puis de toute façon, les Arabes, c'est comme les Juifs, ça s'attrape que par la mer. Cette fois, je craque vraiment. Ma mère est arabe, monsieur. Ah bon, oh là là, la Concorde, à ce temps-là, il n'y a pas moyen. Hein. Oh là, et t'avances, ces connards. Ah mais c'est vert, mais il est con, hein, retourne dans ton 77, et connard. Ah, voyez-vous, monsieur, reprend-il à mon endroit, moi mon derrière, voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas que la race, il y a l'éducation. C'est pour ça que votre père et votre mère, je dis pas. D'ailleurs, je le dis parce que je le pense, vous n'avez pas une tête d'arabe. Hein, ça. Et ça, c'est, croyez-moi, c'est l'éducation. Remarquez. Remarquez, vous mettez un arabe à l'école, hop, il joue du couteau. Et il empêche les Français de bosser, hein, ça. Ah, c'est vrai, ça. Bon, alors voilà, 67 rue de la Verrerie, nous y sommes. Ça nous fait 32 francs. Je lui donne 32 francs. Ah, bah, vous n'êtes pas généreux, vous, alors, elle pour liche. Ah, c'est comme ça, à me venger, j'en faim. Je ne donne pas de pourboire au blanc. Jamais. Alors, cet homme, tandis que nous éloignons vers notre sympathique destin, baisse sa vitre et me lance. Crève donc, eh, sale bico. À moi qui fais ma première communion à la Madeleine. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs les jurés. Voilà un homme qui se trompait de colère. Le temps qui m'est imparti, socialiste mais pas national, c'est toujours ça de prix. Le temps qui m'est imparti, ainsi que la crainte de quitter mon nez rouge pour sombrer dans la démonstration politico-philosophique, m'empêche de me poser avec vous la question de savoir si ce chauffeur de taxi était de la race des bourreaux ou de la race des victimes ou des deux, ou plus simplement de la race importune et qui partout foisonne, celle dénoncée par Georges Brassens, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Aussi bien laisserai-je maintenant la parole à mon ami Louis Régaud, qui poussa naguère ici même le plus troublant des cris d'alarme. Louis Régaud a dit ici, les chiffres sont accablants, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde.
C'était des proches, réquisitoire contre Le Pen. Un petit peu de musique, Tom Z.
Entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta,
que saudade!
Você era vaidosa. Gastava o meu dinheiro.
Que saudade.
Com roupas importadas e outras bobagens, Angélica.
Que maldade.
Você sempre me deu bolo.
Que maldade.
E até andava com a roupa. Cheirando a consultório médico, Angélica Augusta. Graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar. Aflitos, não era bastante largo pra caber minha aflição.
Laia, laia.
Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar.
Eu fui morar na estação da luz. Estava tudo escuro dentro do meu coração.
Augusta,
que saudade.
Você era tão vaidosa.
À la recherche du groupe perdu, numéro 175. Émission hors série. Rire drôle et bonnes chansons. Des sketchs, de la musique. C'était Tom Z. On enchaîne avec Dupontel. Et un sketch qui s'appelle La Pause.
Il y en a qui la prennent pas, mais moi je la prends. On a le droit à une minute par spectateur. Une fois j'ai joué au Parc des Princes, j'ai eu 3 mois de pause. Si vous avez rien prévu, vous allez vous faire chier. Je viens de lire un truc drôle, là. Mais je peux pas vous le dire, c'est la pause. Un terroriste belge se prend en otage et menace de se tuer s'il n'est pas libéré. La police intervient, 4 morts. Un disparu, le terroriste. Un délinquant muet libéré sur parole. Scandale au Téléthon. Un myopathe se casse avec la recette. Après 3 heures de poursuite, ses camarades le plaquent à 2 mètres de son point de départ. On peut désormais ne plus payer les PV, et ce, par un moyen parfaitement simple, légal et à la portée d'un enfant. En effet, il suffit simplement... Ah ouais.
C'était Albert Dupontel, on enchaîne avec Betty Wright, Clean Up Woman. Un petit Coluche pour continuer et ses histoires à bide, l'éléphant.
C'est l'histoire d'un mec qui en a raconté une histoire aussi, mais qui l'a très bien comprise, lui. Mais qu'au moment de la raconter, t'es bien emmerdé avec le mec. Et l'histoire qu'on lui a racontée à lui, c'est l'histoire d'un éléphant qui est dans la jungle. Un éléphant normal, hein. Blanc. Il arrive au bord de la rivière pour boire. Il met un pied dans l'eau. Il met deux pieds dans l'eau. Il met la trompe dans l'eau. Et à ce moment-là, il y a un crocodile qui arrive et qui lui mange la trompe. Et l'éléphant, il se relève et dit « Et vous trouvez ça drôle ?»« Oui, je sais, même en Belgique, elle marche pas. » Et le mec qui m'a raconté l'histoire, un jour, ils se sont invités à bouffer chez des gens. Alors, c'est comment ça, les gens, ils s'invitent à bouffer, des fois, ils ont pas grand-chose à se dire. Bon. Alors le mec il se lève et dit bah voilà, c'est l'histoire d'un éléphant qui est dans la jungle, qui arrive au bord de la rivière pour boire, il met un pied dans l'eau, il met deux pieds dans l'eau, et à ce moment-là il y a la maîtresse de maison qui revient de la cuisine avec un clafoutis, et la maîtresse de maison a un bec de lièvre. En plus du clafoutis. Un bec de lièvre qui part d'ici et qui finit comme ça. Elle arrive et elle dit « Qui c'est que tu veux le clafoutis ?» Et il lui mord la queue, allez. Et la maîtresse de maison a dit, et on trouve un salon.
Delegators, on continue avec Les Des Chiens et des extraits de la série classique qui a été mis en boîte entre 93 et 96. Bien sûr, sur Canal Plus avec des sketchs cultes. On retrouve François Morel avec son acolyte Saladin.
Ils vont faire des autoroutes de l'information,
oui.
Qui vont vraiment.
Il y en a déjà pas mal, hein, des
oui.
informations.
Oui, mais là,
même sur des autoroutes.
Oui, mais là,
Le prix du carburant, oui. Ils indiquent les restaurants, les tests de gonflage,
oui,
les aires de repos.
Oui, hein. Ou même l'altitude et les températures.
Ah, oui.
Mais là, ils vont tisser une toile d'araignée hein, sur tout le pays qui vont aider à.
Bah,
et ça
vous,
va être.
Même
vraiment...
une semaine, vous partez une semaine, il y en a. Mm-hmm.
Quand vous en louez des informations qui...
Des araignées.
Oui,
vous partez une semaine de chez vous, il y en a, ils se retrouvent toujours.
Oui, mais non, je vous parle pas. Ah, non,
si.
Oui, mais je vous parle pas de ça.
Si vous n'avez
non,
si vous en avez.
Oui, mais je
si
vous dis
vous
que non.
Parlé,
je vous dis que vous aurez des ils vont faire même des ils vont faire des autoroutes de l'information, vous en aurez même ça passera par chez vous,
ah,
ça
non.
passera par tout le monde.
Ah non, alors là je suis
de quoi non.
Je suis vers le CADAS.
Quoi?
Alors, je sais bien, c'est pas constructible.
Mais non,
ils m'ont
mais.
Ils promis que c'était pas constructible. Mais... J'en veux pas des autoroutes.
Mais c'est pas. C'est pas un simple câble qui va passer sous deux rangs de poireaux qui vont.
Oui.
Bon alors.
Qu'ils disent?
Quoi qu'ils disent?
Qu'ils disent? Moi, j'en veux pas des autoroutes. Hein.
Mais attendez, vous aurez même des internets et tout. Alors, ça vous permettra de.
Il y a déjà un continent, un Intermarché.
Oh non, mais non, mais. Je vous parle pas de ça! Je vous dis que vous aurez avec une simple souris, que vous pourrez obtenir avec une simple souris tout ce que vous
voulez. C'est pas bien, vous devenez pas bien.
Ben quoi, avec.
Oh
une, je vous dis qu'avec avec une simple manipulation.
Oui, mais ça, c'est la vie de chacun, j'en ai rien à dire pas.
Mais avec, je dis qu'en manipulant légèrement une souris sur son. Vous obtenez.
Ça regarde, vous donnez complètement, ça vous chauffe la tête pour votre science et vie. Faut arrêter l'abonnement, non? Vous êtes pas bien, non? Ma souris, Madame Morel, quand même, un nom, non? T'es pas bien, lui.
Les grilles des ils vont les changer, hein? Ça, c'est. Toutes les chaînes changent, alors là, les grilles. Hein. Il n'y a pas une chaîne qui n'a pas sa nouvelle grille.
Hein. C'est nous qu'on paye les grilles.
Ah bah oui.
C'est nous qu'on les paye les grilles.
Oui, mais ça, il n'y a pas. Ils veulent toujours. La moindre petite chaîne, elle veut sa grille flambant neuve.
Ah,
et ça, tous les ans.
Alors qu'une grille, normalement, ça dure 30 ans. Hein.
Oh non, c'est rare. Oh non, non, 30 ans, alors là.
Bien entretenu. Non, je parle bien entretenu. Une bonne grille, bien entretenue.
Une grille de chêne, si vous voulez, en général,
Faut pas mettre du chêne pour une grille. Faut mieux mettre une grille en fer qu'on peut la peindre.
Non, d'accord. Non,
voilà. Tout le monde veut du chêne du rustique. Je dis non, une bonne grille, normalement, une bonne grille en fer. Tous les ans, un petit coup de minium de la peinture. Et normalement,
non,
on la garde.
Non. Attendez, non.
C'est bien,
on
n'est pas forcément d'accord.
Non. La grille, les grilles des chaînes,
oui.
Ils les changent tous les ans.
Les chaînes
hein? Oui, les directeurs des chaînes.
Ah oui.
C'est pas vous, c'est les directeurs de chaînes.
Pensez-vous.
Mais oui. C'est les directeurs.
Pensez-vous.
Quoi? Pensez-vous. Pensez-vous.
Oui, je pense.
C'est pas El Kabak qui va remplacer une grille. C'est une...
Mais
si.
Là, vous croyez ça?
Mais
vous?
Oui, je le crois, je le crois. Et c'est des ouvriers, ils appellent des ouvriers qui changent les grilles.
Mais c'est pas le directeur. Vous voyez le directeur avec son petit pinceau en train de peindre du...
Mais c'est pas le service d'entretien qui change la grille. C'est le directeur qui change la grille. Mais si, je vous dis que... Oh, mais oui, forcément.
C'est mal organisé, mais parce que normalement, le directeur, il devrait être dans son bureau.
Ben oui, c'est ce qu'il fait, mais...
C'est pas lui.
Mais la grille, il
est malade.
La grille, il la change de son bureau. Il la change, la grille. Oui. Oh là là. Oui, de son bureau, il change sa grille, voilà, c'est tout.
Ah, d'accord.
Oh. Non. Quoi? Ben oui.
Faut qu'il soit bricoleur, parce que...
Non! Bon!
Wow!
Ouais. C'est sûr, hein, vous avez plus de matière dans l'univers, vous avez plus de matière non visible que de matière visible.
Ah bah c'est certain, oui.
Ah ouais, c'est impressionnant quand même.
Ah oui.
Quand vous pensez à toute cette... Quand on pense qu'on regarde certaines étoiles et puis qu'on se dit, tiens, il y a une étoile et puis qu'à côté, vous dites, il n'y a rien, eh ben non, il n'y a pas rien, il y a de la matière. C'est quand même... Hein, c'est... Quand vous voyez à côté de l'étoile, c'est de la matière. Hein, c'est quand même assez... Non? Ah oui. C'est pas possible, c'est certain. Vous avez même des choses qu'on voit pas, qu'on appelle, c'est des espèces de trous noirs, hein, c'est de la matière d'une densité telle qu'elle a une force de gravité énorme.
Et en même temps, je dis, faut repartir de l'avant, je dis, rien n'est jamais grave, il y a des trous noirs, et puis on redémarre, et puis je dis, faut jamais perdre courage. Parce que je dis, après, on redémarre, et puis on est reparti. Je dis, faut jamais désespérer.
Oui, mais non, c'est pas ça.
C'est exactement...
Oui, d'accord, mais je vous parle pas de ça, moi.
Ah bon?
Non, je vous parle pas de ça, je vous dis que dans l'univers, vous avez de la matière tellement dense... Non, vous êtes pas...
J'ai un petit terrain, mais je pas... pas très dense.
Vous n'êtes pas grand-chose. Nous, on n'est pas grand-chose, nous.
Pas grand-chose.
Si, non. Bon, mais là-bas, là-haut, non, vous êtes... C'est quoi? C'est 80% de flotte d'eau et c'est tout. Ouais. Le reste, c'est du vide. Mais si vous êtes du... Si vous êtes fait de vide aussi, vous... Ouais. Tandis que là-bas, dans la matière, vous avez de la matière...
C'est vide. Quand vous me demandez que je vous prête mon plan d'épargne logement, là, M. Morel, il est plus vide, là. À ce moment-là. Je suis peut-être que de la flotte, mais...
Je vous parle pas de ça! Je vous dis qu'il y a dans l'univers, il y a des trous noirs. Il y a des trous noirs, c'est de la matière tellement dense qu'il y a une force de gravité tellement énorme qu'elle absorbe tout, même la lumière, elle est absorbée.
Alors... Les mauvaises odeurs aussi?
Pour?
Ça absorbe?
Je vous parle pas de ça! Je vous dis que vous comprenez.
Je comprends
quand
vous...
rien. Oh, puis il se met dans des... voilà qui flanche maintenant. Vous regardez le ciel, vous voyez des étoiles. Bon, il y a certaines étoiles. Elles sont tellement loin de nous, qu'on sait qu'au moment où c'est que la lumière de l'étoile vous arrive dans l'œil, elle est éteinte. Ça vous embouche un coin, ça. Quand vous regardez une étoile, puis quand, au moment où vous regardez que la lumière de l'étoile vous arrive dans l'œil, et ben le moment où c'est qu'elle arrive dans l'œil, et ben elle est déjà éteinte.
D'accord, oui. We'll be right back.
c'est Mandrill Fat City Strut. On termine avec le dernier sketch du jour où on retrouve une nouvelle fois Pierre Desproges. Les rues de Paris ne sont plus sûres.
Prendre. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Tiens, mon nouvel épicier, monsieur Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18e. Et je l'aime bien, monsieur Rachid Cherkaoui. Il est arrivé dans le quartier il y a 6 mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de monsieur et madame Lefranc, qui périclitait. Il faut dire aussi que pendant les heures d'ouverture du magasin, madame Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que son mari en profitait pour aller boucher la bouchère. Et le reste du temps, l'épicier se recroquevillait sur des enfilades de ballons de muscadet au rendez-vous Montmartre 3 de la rue Caulaincourt, en compagnie de monsieur Leroy, le boucher. Les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale les rapprochait encore. Chaque soir, quand monsieur et madame Lefranc finissaient par réintégrer l'épicerie à l'heure de Colaro, ils se dépêchaient de fermer pour ne pas rater Bouvard. Si bien que les clients éventuels, lassés de poireauter au poireau, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers les grandes surfaces. Femme, dit un soir monsieur Lefranc avec dans le ton une solennité qui ne lui était pas coutumière. Femme, nous sommes prises à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. C'est dur à dire, femme, mais nous allons devoir revendre l'épicerie. Madame Lefranc opina du sous-chef, car c'était une femme réservée. Or, l'épicerie, forcément, dans l'état où elle était, personne n'en voulait. Il y a quelque temps de là, alors qu'il glougloutait ses petits blancs en maudissant le Maghreb, Vichy Saint-Yor et les établissements Mammouth, monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de style relativement basané. Bonjour monsieur, dit le petit homme. Vous êtes bien monsieur Lefranc ?
Qu'est-ce qui me veut ce melon ?
Dit monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. Je vous demande pardon, dit le petit homme, mais je ne suis pas un melon, je suis épicier. Je m'appelle Rachid Cherkaoui. J'ai entendu dire que vous cédiez votre bail et ça m'intéresse, voilà tout.
Oh ben merde alors,
dit monsieur Lefranc.
Ça me ferait vraiment trop chier de voir un feignant de bico dans mon magasin. Hein. Plutôt crevé. Hein.
Après s'être ainsi brillamment exprimé, monsieur Lefranc se dit qu'il n'aurait sans doute pas deux fois la chance de rencontrer pareil gogo. Et dès le lendemain matin, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à monsieur Rachid Cherkaoui. Puis il prit le train à Montparnasse pour aller finir ses jours en Morbihan, dans sa villa. Kermeinkampf. En compagnie de madame Lefranc, qui se consolait déjà de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant le projet d'aller barater le crémier de la rue du Varec, de Quimperlon et de Crêpes. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Plus jamais. Et je dois dire que dans le quartier, nous sommes très contents de notre nouvel épicier. C'est vrai, pour des feignants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander quand ils regardent les jeux de 20h. Alors pour nous, évidemment, c'est vachement pratique. Le dimanche soir, par exemple, Monsieur Rachid ne ferme jamais le magasin tant que tout le quartier n'est pas rentré le week-end. Non, c'est vrai. Je me rappelle, l'autre dimanche, j'y suis allé, il était plus de 9h du soir. Oh, je sais plus quelle connerie me manque, les bricoles qu'on n'a pas le dimanche soir, une salade, un pain de mie, enfin peu importe. Et ben, en tout cas, je vous assure qu'à 9h du soir passé, c'était encore ouvert. Monsieur Rachid était là, dans l'arrière-boutique, en train de jouer au domino avec un autre maghrébin qui lui ressemblait vachement, d'ailleurs. Alors, il me l'a présenté. Il m'a dit, je vous présente mon frère Mohamed. Mohamed, je te présente un client très gentil. Oui, parce que je suis très gentil et je vous emmerde. Alors, j'ai dit, banalité d'usage, bonjour monsieur Mohamed, vous êtes aussi du quartier ? Oui, dit-il, je viens de racheter la boucherie de la rue Lamarque. La boucherie de la rue Lamarque, la boucherie de monsieur Leroy ? Non, je m'étonnais tout de même que monsieur Leroy, qui avait la même fierté, le même foie et le même front que monsieur Lefranc, ait consenti lui aussi à céder son fonds de commerce à un individu de type non gaulois vachement prononcé. Hein. Alors il m'a dit, oh mais vous savez, ça s'est pas fait tout seul. Au début, il a commencé par dire qu'il traitait pas avec les melons. Alors je lui ai dit, monsieur Leroy, on vous aura mal renseigné. Je ne suis pas un melon, je suis blanchisseur. Alors là, il a gueulé. Quoi, ma boucherie, pour en faire un pressing, ils sont pas bien ces ratons. Alors je lui ai dit, mais là encore vous vous trompez, monsieur Leroy, je suis pas un raton, je viens de vous dire que j'étais blanchisseur. Raton laveur, à la rigueur, si vous y tenez. Et là, il m'a carrément foutu dehors. Et alors, croyez-le ou non, monsieur Pierre, nous avons signé dès le lendemain. C'est marrant, je me rappelle maintenant que ce même dimanche, avant de nous laisser repartir, son frère et moi, monsieur Rachid avait tenu à nous faire goûter un petit Sancerre de l'année qu'il venait de recevoir. Une merveille. Encore un peu vert, mais bien très fruité. Et je me rappelle que lui-même ne s'en était servi qu'un tout petit fond de verre parce que, comme il dit, il faut que je fasse attention, je suis moitié musulman, moitié diabétique. Mais c'est des conneries, moi je le connais bien, je sais bien qu'il préfère les Bordeaux rouges, faut pas me prendre pour un con. Enfin. Ce matin, pour la première fois depuis 6 mois, le rideau de fer de l'épicerie Charkaoui est resté baissé. Monsieur Mohamed était là dans tous ses états. Il m'a expliqué que son frère venait de se faire hospitaliser avec 10 points de suture au visage. Il avait été attaqué au couteau, à la nuit tombée, par des inconnus. Alors, monsieur Mohamed et moi sommes allés chez le fleuriste du coin faire l'emplette d'une poignée d'anémones, et puis je l'ai accompagné à l'hôpital. Mais les rues de Paris ne sont plus sûres.
Voilà, c'était des proches, on va se quitter là-dessus. Avec ce dernier morceau du jour, Stories, le groupe qui ouvre le bal de chaque émission, The Chakachas, avec un autre morceau, Stories, c'était à la recherche du groupe perdu numéro 175. Vous pouvez retrouver l'émission, comme d'hab, le jeudi à 10h, en podcast très rapidement. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Salut, bonne soirée, bonne semaine. C'était bien sûr en direct sur RDY. Je vous laisse avec Chakachas. Salut.